L'actu sur un plateau.
La feuille de chou de Radio Larzac qui se cultive toutes les semaines.
Ah mais attends, on est le premier jeudi du mois.
Ah oui, c'est l'actuel.
L'émission féministe pour il, elle et elle.
This time, we will do it by ourselves.
Les luttes sont toujours des luttes simultanées.
L'acte de procréation est un acte de liberté.
Non una, dimeno, pas une de moins.
Que l'aborto sea legal.
Ave patriarca.
Bonjour, bonjour tous, bienvenue dans un nouvel épisode de l'actuel, l'émission féministe sur les ondes de Radio Larzac. Maggie aujourd'hui n'est pas là, mais elle nous écoute, donc coucou Maggie. Aujourd'hui, on parle de l'accès aux soins. On va parler de l'accès aux soins gynécologiques aussi, de l'accès aux soins en milieu rural et sur l'inégalité entre hommes et femmes dans l'accès aux soins. Pourquoi ce sujet ? Eh bien, ça nous tient à cœur parce que le planning familial oriente des personnes qui ont besoin d'accéder aux soins, comme par exemple l'IVG ou la contraception. Et puis aussi parce que dans les territoires ruraux ou semi-ruraux comme ici, à Millau, dans le sud d'Aveyron, eh bien l'accès aux soins peut être plus compliqué, et aussi en ce qui concerne les soins gynécologiques. Pour en parler, je reçois Marion Achache, qui est médecin généraliste à Millau, également membre du planning familial et du syndicat de la médecine générale, qui se bat pour une prise en charge à 100% des soins par la Sécu. Salut Marion.
Bonjour Sophia.
Et puis nous serons aussi au téléphone avec Rose Combe, membre du Manifeste, le comité local pour la défense des hôpitaux et maternités de proximité à Millau et Centrafrique. Il y aura aussi une chronique de Carole qu'elle nous a envoyée de loin. Et bien sûr, on est avec Nico à la technique. Salut Nico.
Salut.
Bonjour Nico.
Salut.
Alors tout de suite, on commence comme d'habitude avec une revue de presse.
Radio Larzac vous présente la revue de presse, des pages aux voix.
On commence avec un sujet d'actualité brûlante, la guerre d'Israël en Palestine depuis le 7 octobre dernier. Le 11 novembre, Libération a publié une tribune exigeant de reconnaître le meurtre d'Israéliennes par le Hamas le 7 octobre comme, je cite, un féminicide de masse. À l'initiative de cette tribune, il y a le collectif Parole de Femmes, composé de quelques personnalités françaises comme Charlotte Gainsbourg ou Anne Hidalgo. Le collectif insiste sur le fait que c'est un appel non politique. Il n'est pas question du conflit israélo-palestinien, elles écrivent, ce qui m'a interrogée. Et en effet, cela a interrogé aussi Cécile Manchette, qui écrit sur Révolution permanente, je cite à nouveau, « Si les exactions qui ont été commises ce jour-là sur des civils et notamment des femmes sont terribles et doivent être dénoncées, on peut néanmoins s'interroger sur les objectifs d'une telle tribune. Selon elle, l'objectif de la campagne, c'est d'insister sur le caractère terroriste du Hamas, qualification qui a été critiquée par de nombreux universitaires et experts du Moyen-Orient. » En évitant en fait la question du sort du peuple palestinien depuis 75 ans, je cite à nouveau, cette tribune revient à effacer, voire légitimer le génocide en cours en Palestine qui a déjà fait plus de 14 000 morts. Fin de citation. Alors même que le terme de féminicide sert à politiser les meurtres commis sur une femme en raison de son sexe, son usage vient finalement accomplir le geste inverse, dépolitiser la situation en Palestine et faire du 7 octobre l'expression d'une sorte de haine barbare des femmes qui serait purement liée au patriarcat, accompagnée d'un appel explicite à ne surtout pas lier au conflit israélo-palestinien la discussion. En tout cas, vous pouvez lire et la tribune sur Libération et cet article sur Révolution permanente, c'est un accès libre. On se déplace ensuite au Texas où Kate Cox, une femme enceinte de 31 ans, a entamé une procédure judiciaire mardi 5 décembre contre son état, donc l'état du Texas, pour exiger de pouvoir avorter. C'est une nouvelle qui est reportée par Libération et Cosette, notamment. Depuis le renversement donc, de l'arrêt Roe versus Wade qui garantissait le droit à l'interruption volontaire de grossesse, le Texas interdit quasiment toutes les IVG, y compris un cas de viol et d'inceste. Pourtant, la santé et la fertilité future de Kate Cox sont menacées par cette grossesse. Elle a appris récemment que son fœtus de 20 semaines est atteint de trisomie 18. C'est une maladie chromosomique mortelle, ce qui signifie qu'il risque de mourir in utero, de naître mort-né ou encore de mourir très précocement. La mort dans l'utérus comporte pourtant de lourds risques pour la santé de Kate Cox en raison de 2 césariennes antérieures, le déclenchement du travail après une mort dans l'utérus impliquant une nouvelle césarienne comporte un risque élevé de rupture de l'utérus ou d'hystérectomie, donc d'ablation de l'utérus, ce qui pourrait la tuer ou l'empêcher de tomber enceinte à l'avenir. Donc sa requête en justice a été déposée en urgence auprès de la justice texane. Elle demande la suspension temporaire de l'interdiction d'avorter et le renoncement aux poursuites envers sa gynécologue obstétricienne, Damla Carson, qui risque 99 ans de prison. On vous tiendra au courant de cette affaire, bien sûr, s'il y aura des nouvelles. J'aimerais conclure cette revue de presse par un récit d'Italie. Très triste et très rageant aussi, mais qui m'a beaucoup chamboulée ces dernières semaines. J'aimerais rendre hommage à Giulia Cecchettin. Elle a été victime de féminicide de la part de son ancien copain qui l'a tuée à coups de couteau dans un parking pas très loin de Venise. Il a ensuite enfui son corps dans un ravin avant de prendre la fuite en Allemagne. Il est par la suite été ramené en Italie. C'est peut-être pour ce caractère assez macabre de ce féminicide, peut-être pour le très jeune âge de Giulia aussi qui avait 22 ans, ou encore pour le fait qu'il soit advenu un peu avant le 25 novembre, la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Mais en tout cas, cet épisode a provoqué une vague de colère et de solidarité incroyable en Italie, du nord au sud vraiment, de la part des mouvements féministes et aussi du mouvement réuni sous le nom de Nonnuna di Meno. 500 000 personnes ont défilé dans les rues de Rome le 25 novembre, selon le quotidien Il Manifesto. La sœur de Giulia, Elena Cecchettin, a soutenu ce mouvement. Elle a aussi encouragé les manifestations. Elle a pris la parole peu après les faits avec beaucoup de courage. Elle a dénoncé le caractère systémique des violences faites aux femmes et le fait qu'il fallait pas décrire son tueur comme un monstre, mais comme le fils de la société patriarcale qui est imprégnée de la culture du viol. Elena Cecchettin a aussi appelé à tout brûler pour sa sœur. C'est pourquoi les élèves des lycées et des établissements scolaires, plutôt que de faire une minute de silence, ont fait une minute de bruit. Et c'est ce qui s'est passé aussi cette semaine lors des obsèques de Giulia, qui ont réuni près de 10 000 personnes à Padoue, dans le nord-est de l'Italie. Lors d'un discours très poignant, son père, Gino Cecchettin, a appelé à transformer la tragédie en un moteur de changement. Je cite « La vie de Giulia a été cruellement fauchée, mais sa mort peut et doit être un tournant pour mettre fin au terrible fléau de la violence contre les femmes. » Fin de citation. Les données du ministère de l'Intérieur en Italie dénombrent 106 femmes tuées cette année au 19 novembre, 87 dans la sphère familiale ou affective, dont 55 par un conjoint ou ancien conjoint. La France a même un pire record avec 120 féminicides en 2023 jusqu'à aujourd'hui. À l'occasion de la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, comme je disais le 25 novembre, les associations féministes et les syndicats ont appelé à manifester dans toute la France. À Toulouse, par exemple, il y a eu 1 000 000 de personnes qui se sont mobilisées et plusieurs dizaines de cortèges et manifestations se sont déroulées dans toute la France, comme le rappelle Libération. Une action pour le 25 novembre a eu lieu à Millau aussi. Même si on n'était pas très nombreuses et nombreux, cette journée a servi en tout cas et sert toujours à nous donner de la force et du courage dans ce combat et dans ces épisodes super tristes et rageants. Donc c'est avec ce signe d'espoir que je conclue cette revue de presse. Donc place au sujet du jour, c'est l'accès aux soins. Pour en parler, je suis avec Marion Achache. Je le rappelle, tu es médecin généraliste à Millau, membre du planning familial et également du syndicat de la médecine générale qui se bat pour une prise en charge à 100% des soins. Alors justement, ma première question pour commencer à parler de ce sujet, c'est sur la prise en charge des soins. Parce qu'il y a des actes médicaux donc, et des médicaments qui sont pris en charge totalement ou partiellement par la Sécu, la Sécurité sociale. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire concrètement et qui paye les soins ?
Donc en France, il y a 4 acteurs et actrices pour financer les dépenses de santé. La plus grande part de ces dépenses est prise en charge par la Sécurité sociale et plus précisément par la branche assurance maladie obligatoire. Et donc ça finance au moins les 3/4 de ces soins. Ensuite, il y a aussi les assurances maladie complémentaires que l'on appelle souvent mutuelles. Mais en fait, dans les assurances maladie complémentaires, il y a 3 types d'organismes différents. Ça peut être des mutuelles, des prévoyances ou des assurances. Ensuite, il y a une partie des dépenses de santé qui sont prises en charge par les ménages, les patientes, les patients. Et l'État aussi paye une partie des dépenses de santé puisque l'État prend en charge l'aide médicale d'État. C'est la couverture pour les soins des personnes en situation irrégulière. L'État prend aussi en charge le coût de la formation des soignants, la recherche médicale, bon voilà. En pratique, quand nous allons consulter un médecin ou une sage-femme, il y a 70% de la consultation qui est prise en charge par la Sécurité sociale. Sauf si nous sommes bénéficiaires de l'aide médicale d'État, de l'AME, ou de la complémentaire santé solidaire, on l'appelle C2S, en fait, c'est une couverture pour les personnes qui ont des revenus modestes, ou dans ces cas-là, ce sera la Sécurité sociale qui pourra prendre en charge à 100% les consultations. C'est aussi le cas quand on a une affection longue durée ou une invalidité. Bon, dans le cas où on n'est pas dans ce cas-là, il y a 70% de la consultation qui est prise en charge par la Sécurité sociale. Et pour les médicaments, c'est à hauteur variable de 30 à 100% en fonction du service médical rendu. Donc en fait, en fonction de l'utilité du médicament. Du coup, il y a une part qui n'est pas prise en charge, ça s'appelle le ticket modérateur. Le ticket modérateur peut être pris en charge par les assurances maladie complémentaires, à condition d'en avoir une. Si nous n'en avons pas, c'est nous, le patient et la patiente, qui doit payer le ticket modérateur. Depuis 2008, il existe une partie des soins qui ne peut être remboursée ni par la Sécurité sociale, ni par les complémentaires. Ce sont les franchises et la participation forfaitaire. Donc ça s'élève à 1 euro par consultation médicale ou par examen de radiologie ou par examen biologique prise de sang. Et 50 centimes pour les actes paramédicaux d'infirmières et d'infirmiers par exemple et par boîte de médicaments. Cette franchise, c'est pareil, elle ne s'applique pas à tout le monde. Il y a des cas comme les femmes enceintes, les enfants, où elles n'existent pas. Mais dans la plupart des cas, il y a cette part qui est incompressible, qui est à la charge des patientes et des patients. Donc après, on peut aller plus loin. D'où vient l'argent de la Sécurité sociale ? La Sécurité sociale, ses recettes proviennent en majorité des cotisations sociales. Et les cotisations sociales, elles dépendent du niveau de revenu. Plus une personne a un salaire élevé, plus elle contribue. À côté de cela, il y a aussi les assurances maladie complémentaires dont le financement n'est pas pareil. Le financement dépend donc des paiements des ménages. Mais généralement, la contribution dépend du niveau de risque. Plus on est âgé, plus on paye cher une assurance maladie complémentaire.
Mais donc ça veut dire que la mutuelle, elle est payée pas à travers les cotisations, pas à travers mon salaire.
C'est ça. Du coup, je voulais citer le site de Nicolas Da Silva, La bataille de la Sécu, où il explique très bien tout ça avec l'historique de la Sécurité sociale. Et lui, il dit carrément, je le cite, que chaque euro donné à une complémentaire plutôt qu'à la Sécurité sociale est un euro d'inégalité. Et il dit un peu plus loin, avec les complémentaires, plus on est pauvre, plus on contribue. En effet, en 2012... pour le financement de la Sécurité sociale, les personnes, les 10% les plus pauvres, contribuaient à hauteur de 4% de leurs revenus. Et les Françaises et Français, les 10% les plus riches, à hauteur de presque 15% de leurs revenus, donc pour financer la Sécurité sociale. Par contre, pour les assurances maladie complémentaires, les personnes les plus modestes, les plus pauvres, contribuent à hauteur de 4% de leurs revenus et les plus riches à hauteur de 1% de leurs revenus. Voilà. Donc en fait, le système de sécurité sociale, c'est celui qui permet une plus grande solidarité et une plus grande réduction des inégalités. Donc ça permet de cotiser selon ses moyens et de recevoir selon ses besoins.
Tandis que le système de complémentaire santé n'est pas si égalitaire en fait.
C'est ça, il ne permet pas de réduire autant les inégalités en tout cas.
Et donc, quand les soins ne sont pas pris en charge, ou en tout cas quand les personnes renoncent à se faire soigner, on parle de renoncement aux soins. Et en fait, de quoi s'agit-il exactement? Parce qu'il peut y avoir des conséquences de renoncer à se faire soigner ensuite sur le système de santé publique.
Mmh. Donc, comme tu le dis, le renoncement aux soins, c'est quand une personne ne va pas se faire soigner alors qu'elle aurait besoin d'un soin. Et les raisons peuvent être multiples. Ça peut être l'éloignement géographique, les raisons financières, les délais d'attente. Et ça a bien sûr des répercussions puisque du coup, le non-recours aux soins, c'est à l'origine de l'aggravation de l'état de santé de l'individu et in fine d'un surcoût collectif. Je peux prendre un exemple une personne s'aperçoit qu'elle a une lésion sur la peau, ça l'inquiète un petit peu, elle essaye d'avoir un rendez-vous chez le dermatologue, mais c'est dans un an, donc elle ne sait pas ce qu'elle fera dans un an, donc elle ne prend pas le rendez-vous. Et puis les années passent et finalement il s'agissait d'un cancer de la peau et donc la chose sera prise en charge beaucoup plus tard et ça sera beaucoup plus cher de payer une chirurgie, une chimiothérapie. Les traitements seront beaucoup plus lourds que si on avait agi plus tôt ou il suffisait peut-être juste d'enlever la lésion débutante.
Et puis ça a aussi bien sûr des conséquences sur la santé personnelle de l'individu qui renonce à se faire soigner.
Ah ouais, ça c'est sûr, oui. Après là, c'est plus comme tu m'avais dit, ça a une répercussion sur le système de santé publique, c'est pour ça que j'ai pris ça. Mais au niveau individuel, c'est aussi la catastrophe, bien sûr.
Ouais. Ouais, bien sûr. Et donc en ce qui concerne les soins gynécologiques, quels sont ceux qui sont pris en charge à 100%, donc qui sont gratuits même si on n'a pas de complémentaire santé par exemple?
Bon, je ne suis pas sûre d'être exhaustive, je vais dire les principaux qui me viennent à l'esprit. Donc, si on a besoin de préservatifs à la pharmacie, ils sont disponibles gratuitement avant 26 ans, puisqu'ils sont pris en charge à 100% par la Sécurité sociale. Il y a aussi, ça fait depuis peu, depuis le 1er janvier 2022, tout le parcours contraceptif qui est pris en charge à 100% par la Sécu jusqu'à 26 ans. La grossesse aussi. À partir d'un certain terme. Les forfaits de prise en charge des IVG sont pris en charge à 100% par la Sécurité sociale aussi. Les examens biologiques pour le dépistage du col de l'utérus, donc ce qu'on appelle le frottis. Alors la consultation n'est pas prise en charge, mais par contre l'analyse du labo, oui. Et ensuite, il y a aussi les dépistages du VIH. Il faut expliquer ce que c'est le VIH ou...
On peut rappeler.
c'est une maladie sexuellement transmissible qui peut donner le sida quand c'est évolué. Et puis, enfin, ce qui me vient à l'esprit dans les soins pris en charge à 100% par la Sécu, ce sont les affections longue durée dans lesquelles il peut y avoir les cancers du sein, les cancers des organes génitaux et il peut y avoir là-dedans la transition de genre aussi.
Donc quand quelqu'un, par exemple, décide de faire des examens pour changer ses organes génitaux
Tout à fait, ou avoir une hormonothérapie, ou bénéficier d'une épilation définitive aussi. Ça peut être pris en charge par la Sécurité sociale.
Ok. Et en fait, en ce qui concerne l'IVG, donc les médecins généralistes ou sages-femmes ont besoin d'une convention avec un établissement de santé pour pouvoir le pratiquer. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Parce que je pense que ça peut être une entrave à l'accès à l'IVG du moment où je suis obligée d'aller dans un hôpital plutôt que d'aller chez mon médecin ou ma sage-femme que je connais bien pour me faire avorter.
Donc en effet, quand tu es médecin ou sage-femme libérale, donc qui travaille en ville, tu as besoin d'avoir une convention avec un établissement de santé pour pouvoir réaliser des IVG. Donc cette convention, pour l'avoir, il faut justifier d'une formation spécifique à l'IVG. Et en contrepartie, l'établissement de santé s'engage à recevoir la patiente si besoin en cas d'échec ou de complication. Du coup, je pense que c'est un frein dans le nombre de soignantes et soignants qui peuvent réaliser l'IVG. C'est vrai que c'est un peu étonnant parce qu'il y a des médecins qui pratiquent les infiltrations intra-articulaires, par exemple. Ils n'ont pas de convention à passer pour justifier d'une formation ou pour que s'il y a une complication chez leur patiente ou patient, ils soient pris en charge dans l'établissement de santé. Donc c'est quelque chose qui est un peu particulier et qui peut donc freiner l'offre, en tout cas l'offre de soins concernant l'IVG.
Et tu parles des injections intramusculaires, c'est ça ?
Articulaires.
Parce que ça peut se rapprocher de l'IVG comme soin ou parce que c'est aussi quelque chose d'un peu complexe ?
Oui, parce que je dirais, pourquoi j'ai parlé de cet exemple ? Parce que tout le monde ne le fait pas. Et parce qu'aussi ça ne fait pas partie de notre formation initiale. Quand on finit nos études, on n'a pas forcément appris à réaliser une IVG médicamenteuse et on n'a pas forcément appris à réaliser une infiltration intra-articulaire. Pourtant, donc, après ces deux apprentissages qu'on lui a appris, il y en a un où il y a besoin d'une convention, l'autre non. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est pourquoi ne pas rendre l'apprentissage de l'IVG obligatoire dans la formation initiale ? Ça
oui,
peut être
voilà.
Aussi... Et comme ça, toutes les sages-femmes ou tous les médecins qui sont formés, ben, en fait, ils savent réaliser ceci comme un suivi de grossesse, par exemple.
Ouais, ça devrait être... Ça me paraît évident qu'il faudrait l'inclure dans la formation initiale. Après, c'est vrai qu'il y a des formations après, mais oui, comme tu dis, c'est assez étonnant. Et donc, toujours sur la question de l'IVG, le planning familial, souvent, d'après ce que racontait Maggie aussi en préparant cette émission, reçoit des mineurs qui ont besoin d'avoir accès à une IVG, par exemple, mais qui, par exemple, pourraient demander que ça soit anonyme. Parce que après, les parents peuvent voir les actes qui sont remboursés s'ils sont encore sous la mutuelle ou en tout cas sous le contrôle parental. Donc dans ce cas, comment ça se passe pour pratiquer une IVG de manière anonyme, en tout cas pour que ça soit anonyme ?
Alors pour l'IVG, il n'y a pas de souci. Ça peut être anonyme en établissement de santé et aussi en ambulatoire en ville, chez un sage-femme ou un médecin. Si la garantie d'anonymat n'est pas possible, c'est bien inscrit dans le texte de loi que le médecin doit en informer la patiente dès la première consultation et l'orienter vers un endroit où c'est possible de le faire de façon anonyme dans les délais requis. Tu veux qu'on parle des autres soins anonymes qui peuvent exister ?
Par exemple, la contraception ou la pilule d'urgence, si ça peut être prescrit de manière anonyme ?
C'est ça. Donc, l'ensemble du parcours contraceptif avant 18 ans peut être réalisé de manière anonyme, donc la délivrance des médicaments et la réalisation des consultations. Les préservatifs aussi, dont on a parlé tout à l'heure, ça peut être anonyme. La contraception d'urgence, la pilule du lendemain aussi. Et après, il y a aussi les centres gratuits d'information, de dépistage et diagnostic, le CDAG aussi, centre de dépistage anonyme et gratuit, le mardi matin à l'hôpital de Millau sur rendez-vous qui peut aussi proposer un suivi anonyme et le bilan des infections sexuellement transmissibles parce que c'est vrai qu'en ville pour l'instant, à part le dépistage du VIH, il y a d'autres infections sexuellement transmissibles. On ne peut pas le faire de manière anonyme. Il y a un texte de loi qui est sorti en ce sens, mais il n'y a pas encore le décret d'application, de ce que j'ai compris. Donc, voilà.
Et quand tu dis en ville, c'est les médecins libéraux ?
Oui, c'est en ville ou à la campagne, c'est hors établissement de santé. Ouais. Quand je dis en ville, c'est plus ambulatoire, voilà.
Oui. Et aussi, du coup, j'ai envie de te poser une autre question. C'est quand on n'a pas de carte vitale, on peut quand même avoir accès à des soins anonymes et gratuits ?
Oui, oui. Du coup, quand on n'a pas de carte vitale, on fait un peu à l'ancienne. On remplit des feuilles de soins papier.
Oui.
En fait, la carte vitale, c'est juste pour rendre la feuille de soins électronique.
Ok, d'accord. Et donc maintenant, pour parler un peu plus de l'inégalité dans l'accès aux soins, j'ai vu une étude de 2017 qui disait que 64 personnes à peu près, des personnes qui ont déclaré au moins un renoncement aux soins dans leur vie sont des femmes. Donc d'après toi, pourquoi il y a cette inégalité par rapport aux hommes ?
Du coup, j'ai regardé aussi cette étude et donc ils disent que 9,7% des hommes évoquent un problème de disponibilité personnelle contre 12,1% chez les femmes. Donc du coup, je pense que bon, il y a d'autres études qui montrent que le travail parental et domestique incombe plus aux femmes dans notre société. Donc on peut comprendre qu'elles aient peut-être moins le temps de s'occuper de leur santé à cause de ça. Il peut y avoir aussi un frein financier qui explique le renoncement aux soins, puisqu'il y a une grosse quand même différence de revenus en France entre les femmes et les hommes. Par exemple, en 2020, le salaire moyen des femmes était inférieur de 21% à celui des hommes. Elles sont plus à temps partiel et elles sont aussi, c'est plus souvent les femmes qui sont seules avec des enfants. Donc du coup, voilà, je pense qu'il y a un manque de temps, peut-être manque d'argent, voilà.
Le fait aussi que quand elles sont seules avec des enfants, elles mettent en avant la santé de l'enfant plutôt que la leur.
Oui, ça, je pense que ça rend le travail parental et domestique, prendre soin des personnes autour d'elles.
Oui, aussi, ouais. Et aussi, il peut y avoir la crainte des violences ou des jugements par rapport à des soins gynécologiques, par exemple, ou une IVG.
C'est certain que si une personne, notamment une femme, a eu une expérience désagréable par le passé au cours de soins gynécologiques ou même en simple consultation non gynécologique, eh bien, ça va freiner son envie de retourner consulter.
Oui. Et donc, pour lutter en fait, contre ce phénomène du renoncement aux soins, que ce soit pour les femmes ou les hommes, comment on peut faire, enfin, en tant que toi, en tant que médecin, mais moi, par exemple, en tant que citoyenne?
Bon, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Donc, on peut déjà parler du frein financier, enfin, le problème des finances qui joue dans le renoncement aux soins. Donc déjà, il y a plus d'une personne sur deux qui aurait droit à une prise en charge à 100% par la Sécu qui ne bénéficie pas de ces droits. Donc je pense que déjà, il faut promouvoir, informer sur l'accès à l'aide médicale d'État et à la complémentaire santé solidaire. Voilà. Après, je pense qu'il faut aussi œuvrer pour la suppression des franchises et participations forfaitaires.
Il faut augmenter le coût des médicaments et des consultations.
Le coût qui reste à la charge des patientes et patients, voilà. Puisque avant 2008, il n'y en avait pas. Hein. Et je pense qu'il faut œuvrer pour une prise en charge à 100% des soins par la Sécu pour tout le monde, afin que le reste à charge des ménages soit nul. Enfin, en fait, cotise déjà sur les salaires, voilà. Et après, je pense que c'est important aussi d'œuvrer pour que toute la population ait des meilleurs revenus, donc majorer le RSA, indexer les salaires sur l'inflation, enfin j'ai des exemples, hein, voire discuter aussi le temps de travail. Est-ce qu'on ne pourrait pas travailler moins pour être plus disponible
et
avoir
plus en santé,
mieux le temps de se soigner, voilà. Et après, bon, il y a les soucis géographiques et temporels d'accès aux soins, donc... Là, c'est sûr que le syndicat de la médecine générale a fait beaucoup de propositions. Il y a un texte qui vient de sortir pour réduire les inégalités territoriales d'accès aux soins. Il y avait beaucoup de mesures à combiner. On a parlé notamment d'un service public de santé de proximité. Bon, voilà, faut favoriser un accès qui soit simple, rapide et égal sur le territoire. Un accès aux soignantes et aux soignants, voilà.
Et oui, donc t'en as un peu parlé donc de ton syndicat, le syndicat de la médecine générale. Il y a sûrement des propositions pour la prise en charge à 100% de la part de la Sécu. Est-ce que vous avez des choses spécifiques par rapport aux soins gynécologiques ou des soins qu'on a évoqués comme l'IVG et la contraception?
Au niveau gynécologique, pour l'instant, la seule chose à laquelle ça me fait penser, c'est que le syndicat de la médecine générale œuvre pour la dissolution du Conseil de l'Ordre des médecins, puisque c'est une instance qui protège des médecins agresseurs et qui ne condamne pas certains délits ou qui se mobilise avec lenteur, parfois bien après la justice ordinaire, comme avec l'affaire Le Squarneck, donc dans le cadre de violences sexuelles. Et en parallèle, le Conseil de l'Ordre a condamné des médecins lanceurs et lanceuses d'alerte sur des situations de maltraitance ou d'agression sexuelle. Donc voilà.
Eh bien, merci Marion.
Avec plaisir, merci à toi.
Tu as parlé tout à l'heure aussi de la situation géographique qui peut être un facteur de renoncement aux soins, et c'est ce dont on va parler tout à l'heure avec Rose Combe, qui se bat donc pour la défense des hôpitaux de proximité. Mais tout de suite, on va continuer de parler d'accès aux soins avec Carole, qui nous a envoyé une chronique sur l'accès de la pilule d'urgence en milieu rural, qui est suivie aussi d'une musique qu'elle a choisie.
Chers auditories, mi-à-voix, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pilule d'urgence, anciennement appelée la pilule du lendemain. Je vais d'abord déconstruire quelques idées reçues sur celle-ci, et ensuite, je vous raconterai comment c'est pas si facile cette histoire de pilule d'urgence. La pilule contraceptive d'urgence empêche ou diffère l'ovulation pour limiter les risques de grossesse. Donc si vous êtes en pleine ovulation, ça ne marchera pas. Cette pilule n'est donc pas abortive. Elle est donc un moyen de contraception. Ce moyen de contraception n'est cependant pas à privilégier puisqu'il n'est fiable seulement qu'à 95%. La pilule d'urgence ne rend pas stérile. Ça semble être une idée reçue qui s'est installée pour faire peur et forcer les personnes à utiliser les moyens de contraception en amont des rapports sexuels. Ce type d'idée reçue nuit à l'accessibilité d'une grossesse choisie. L'ayant vécu dans mon corps, je vais vous raconter mes histoires de pilules d'urgence. Ma première fois, j'avais 15 ans. La première fois que j'ai fait l'amour, je veux dire. J'avais 15 ans et il en avait 23. Il me ramenait chez moi. Le moteur encore allumé, il est monté sur moi. J'étais très excitée, j'avais envie, mais il m'a surpris. Je n'ai pas eu le temps de comprendre ce qu'il arrivait. Il était déjà dans moi. Il a joui et je suis sortie de la voiture. Ce n'est qu'en allant aux toilettes par la suite que j'ai compris qu'il n'avait pas mis de capote. J'ai pleuré dans les bras de ma mère et le lendemain, on est allé à la pharmacie de ma petite ville natale. Déjà, je connaissais une cliente dans la file d'attente qui a entendu ma demande. La pharmacienne m'a jugée. Elle a dit que ce n'était pas un moyen de contraception, comme si j'en prenais tous les week-ends. Je me suis sentie humiliée. Ça, c'était en 2002. 8 ans plus tard, j'ai un rapport sexuel d'amour consenti. Comme moyen de contraception, j'utilisais la méthode d'analyse de mon cycle. Comme ça, je mettais des capotes seulement pendant la fenêtre de fertilité. Ça faisait 2 ans que je faisais ça. Ça marchait bien. Sauf que ce jour-là, je sentais que mon cycle avait l'air de s'être décalé. J'avais fait un job compliqué, hyper stressant, pendant un mois non-stop. Et je me suis dit que je devrais aller prendre la pilule d'urgence. Ça serait mieux. Là, d'un seul coup, je n'ai pas eu la force d'affronter un jugement, une humiliation possible. Alors, j'y suis pas allée. Je suis tombée enceinte et j'ai avorté. Je trouve ça dingue que 8 ans plus tard, c'est la peur de recevoir un jugement qui m'a empêchée d'aller prendre ma pilule. Bon, il y avait un peu une part de flemme, c'est vrai. En 2021, soit 19 ans plus tard, j'ai eu un rapport sexuel d'amour consenti, encore. C'était une période où j'avais envie d'avoir un enfant, mais ma décision n'était pas vraiment arrêtée. C'était un vendredi soir. Le samedi, je doutais, mais pour me rassurer, je me suis dit que j'étais pas fertile, que à peu près, en regardant mes règles, ça avait l'air d'aller. Mais surtout, en fait, j'y pensais pas vraiment. Et la nuit du samedi, j'ai vraiment mieux calculé mon cycle. Et là, je me suis rendu compte que potentiellement, j'étais en période d'ovulation. Et là, j'ai flippé à mort. Que soit je l'étais ou que soit j'allais être en période d'ovulation. Donc, je me suis dit qu'il fallait absolument, absolument que j'aille à la pharmacie de garde le lendemain matin. Heureusement, c'était celle de mon village qui était de garde le lendemain matin. Du coup, j'ai été tout de suite rassurée. J'ai attendu le lendemain. Dès l'ouverture, j'y vais et la pharmacienne me dit qu'ils sont en rupture de stock. Que c'est parce qu'ils ont un petit stock, une dizaine pour la semaine, et qu'ils se réapprovisionnent le lundi. Donc là, je comprends que dans les moments où les personnes en ont le plus besoin, le lendemain des fêtes par exemple, il n'y en a plus. La pharmacienne en profite pour me juger sur le fait que j'ai attendu le dimanche pour réagir. Je suis à ce moment-là bénévole au planning familial et pourtant, je me sens démunie. J'appelle la deuxième pharmacie de garde qui est à 20 km de chez moi. Rupture de stock aussi, pour les mêmes raisons que la première. J'appelle la troisième pharmacie de garde qui est à 50 km. J'ai de la chance, me dit-il, c'est la dernière. Mais la pharmacie ferme dans 30 minutes. Je n'ai pas le temps d'y aller en voiture. Heureusement, il acceptera de rouvrir la pharmacie juste pour que je vienne acheter la pilule. Je me fais accompagner parce que je suis trop mal. Devant le pharmacien, je dis que ce n'est pas pour moi, mais pour une jeune, parce que je suis bénévole au planning familial. Là, le pharmacien se lâche. Il fait tout un tas de remarques sur l'irresponsabilité des jeunes filles, qu'il y a encore tellement de travail pour les éduquer, et gna gna gna, et patati et patata. Il a l'air de se permettre ça juste parce qu'ils ont vendu tout leur petit stock de la semaine de 20 pilules pour une ville de 22 000 habitants et ses alentours. Pourquoi les pharmacies ne prévoient-elles pas plus de pilules d'urgence les semaines où elles sont de garde ? Pourquoi les pharmaciens-pharmaciennes n'adoptent pas des postures de non-jugement pour respecter les usagers et usagères de ce type de pilule ? Parce que tout le monde a un droit de contrôle sur le corps des femmes, apparemment. Merde. En tout cas, si vous avez besoin d'une pilule d'urgence, vous pouvez passer au planning familial de Mio tous les mercredis de 14h à 17h. C'est au Créa, près des Halles. On pourra vous accompagner pour l'acheter ou l'acheter avec vous. Vous pouvez aussi en avoir une qui traîne chez vous, au cas où vous ou un ou une amie, une sœur, un adelphe en ait besoin. Votre médecin généraliste ou votre sage-femme peut vous la prescrire. Vous pouvez même juste garder la prescription et aller la chercher quand vous avez besoin. Quand il y a une prescription, les pharmaciens et pharmaciennes ne donnent pas leur avis, ni leur jugement, du coup. Si vous avez besoin d'en discuter, le numéro du planning familial de Mio est le 06 32 95 22 12. 06 32 95 22 12 ou le numéro vert national qui est le 0800 08 11 11 0800 08 11 11. Et bien sûr, sortez couvert, mais si jamais ça a raté, ne prenez pas la culpabilité comme ami. Venez nous voir. À bientôt.
Le soleil, l'été sur mes joues, et jamais pareil. C'est un gros câlin pour guérir nos chagrins. Pour l'amour, il y a les étoiles tombées dans nos yeux. Jamais malheureux. Un gros câlin, on guérit nos chagrins. Restez allongés sur le sable, donner des sourires sur la plage, s'amuser à perdre le temps, laisser l'été avoir 15 heures. Passer ses journées en balade, sous la pluie goûter les nuages. Brave sur ta moto le vent, laisser l'été avoir 15 heures. Le soleil, l'été sur mes joues, y est jamais pareil. C'est un gros câlin pour guérir nos chagrins. Pour l'amour, il y a les étoiles tombées dans nos yeux. Jamais malheureux. Restez allongés sur le sable, donner des sourires sur la plage. Amuse-toi à perdre le temps, laissez l'été avoir 15 ans. Passe tes journées en balade, sous la pluie goûter les nuages. Brave sur ta moto le vent, laissez l'été avoir 15 ans.
C'était la chronique de Carole, suivie de Laissez l'été avoir 15 ans, interprétée par Safia Nolin. Merci à Carole pour avoir envoyé cette chronique et cette musique. Et nous, nous sommes toujours dans l'actuel pour parler d'accès aux soins, et notamment au niveau local, dans le sud Aveyron. Nous sommes au téléphone avec Rose Combe. Bonjour Rose.
Bonjour Sophia.
Et je suis aussi avec Marion.
Bonjour Marion.
Bonjour Rose. Donc Rose, tu fais partie du Manifeste, donc le comité local de Centrafrique et Millau, rattaché à la coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité. Pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter le Manifeste, donc ici dans le sud d'Aveyron ?
Alors le Manifeste, c'est une association d'usagers de l'hôpital public, donc sur Centrafrique et sur Millau. Il est composé d'adhérents individuels. Et il y a des associations ou des partis politiques qui adhèrent aussi, voilà, oui.
Et donc, vous vous battez pour la défense des hôpitaux et des maternités, et en particulier en ce qui concerne la maternité de Millau et de Centrafrique. Comment ça se passe aujourd'hui? Quel est son état?
Eh bien, je pense qu'elles sont fragiles toutes les deux. Elles sont fragiles du fait du manque de médecins. C'est compliqué d'avoir des anesthésistes et des gynécos. Je crois que pour le moment, c'est à peu près stable, voilà. Au point de vue gynéco, ce sont des gynécos qui viennent régulièrement, les anesthésistes c'est pareil, ce sont des anesthésistes qui viennent régulièrement remplacer l'anesthésiste qui est là en poste, voilà. Mais c'est fragile, quoi, c'est très fragile.
Et donc,
alors c'est fragile du fait du manque de médecins, et c'est encore plus fragilisé avec la perspective de l'hôpital commun.
Oui,
où il va falloir faire en sorte que, si un jour il sort de terre, il n'y ait plus qu'une maternité qui fonctionne. Voilà.
Qu'il puisse y avoir des maternités à Centrafrique, à Millau, enfin un peu plus sur le territoire, quoi.
Et oui. Donc ça éloignera les lieux d'accouchement. Ce sera encore plus difficile d'accoucher à domicile, parce que pour accoucher à domicile, il faut que la maman où se passe l'accouchement à domicile soit à moins de 30 minutes d'une maternité. Donc là, ça va faire loin, hein. On pourra accoucher à Millau, à domicile, et peut-être à peine à Centrafrique, quoi, oui. Bon, il y en a peut-être peu, je ne sais pas le nombre d'accouchements à domicile qui peuvent se faire, oui.
Mais en tout cas, ouais, c'est une possibilité qui risque d'être mise à mal.
Tout à fait. Oui.
Et donc le manifeste, il se montait quand il y a eu cette idée d'hôpital commun, ou ça existait avant ?
Ça a dû se créer en 2003, je pense, à l'occasion d'un plan comptable. Voilà, oui. Donc c'était au départ le syndicat Sud qui a eu cette idée, et rapidement il y a eu plein de, il y avait la CONF, il y avait la CGT, voilà. Ça la mayonnaise a pris rapidement, oui, voilà, parce que c'était une période de lutte, oui.
Donc tu en as parlé un peu, mais donc pour toi, les services de maternité, aujourd'hui, ils sont inadéquats aux besoins de ces territoires ?
Je pense que les deux hôpitaux, les deux maternités, peuvent répondre aux besoins. Parce que, il y a quand même des mamans qui sont à plus de 35 minutes, parce qu'ils disent que c'est les services d'urgence et qui doivent être à 30 minutes, et les maternités à 45 minutes. Mais à la coordination, il y avait un médecin gynéco qui est décédé maintenant, Paul Cesbron, et qui disait, mais la maternité, c'est toujours une urgence, quoi, l'accouchement, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc il faut que les maternités soient moins de 30 minutes aussi, que les mamans soient moins de 30 minutes d'une maternité, quoi, voilà, ouais.
Et également, tu en as un peu parlé, mais donc... À part ou avec cet hôpital commun, quelles sont les menaces qui pèsent en fait sur les hôpitaux de Millau et de Centrafrique ?
C'est des menaces de fermeture qui sont dues aux politiques qui sont mises en place, et surtout donc à la pénurie médicale ou paramédicale même. Il manque une infirmière anesthésiste, on n'intervient pas. Je vois la maternité de Centrafrique a fermé je ne sais combien de fois parce qu'on faisait des travaux au bloc. Alors qu'il y a un petit bloc qui avait été construit à côté de la maternité, qui a été rarement utilisé, mais il n'y a jamais eu la volonté de le faire fonctionner, de voir si on pouvait l'utiliser, ce petit bloc. Il suffisait de descendre une armoire là, qui filtre l'air là, et de faire un prélèvement au bout de deux jours. Ça pouvait se faire ça sur un week-end. On faisait un prélèvement le lundi. Si l'air est bon, on utilise. Et si l'air n'est pas bon, on n'utilise pas. On se range. Bon, on ne va pas mettre les mamans en danger quand même. Voilà.
Et donc, toi, tu as travaillé en tant que professionnelle de santé aussi ?
Je suis une aide-soignante à la retraite.
Ok, d'accord.
Voilà, oui.
Donc, tu as eu aussi une expérience dans le manifeste, mais aussi une expérience professionnelle dans les services de santé ici. Est-ce que la situation a amélioré, notamment en ce qui concerne la prise en charge des femmes enceintes, les maternités, ou est-ce que ça a empiré pendant ton expérience professionnelle ?
Alors, j'ai pas travaillé à maternité parce que j'étais pas auxiliaire puéricultrice. puéricultrice, à l'époque, c'était des auxiliaires puéricultrices. Maintenant, il y a des aides-soignantes qui travaillent en maternité. Mais empirer, peut-être pas quand même, parce qu'il y a... Il y a la prise en charge des mamans, de la parentalité qui est accompagnée, après l'accompagnement des mamans aussi, avec l'allaitement et tout ça, les massages qu'on fait au bébé. Je pense que il y a des consultations aussi après de sages-femmes qui peuvent aider les mamans, qui peuvent répondre aux questions des mamans. Je pense que ça s'est amélioré quand même, ça. Et puis il y a le respect du corps des femmes. Un petit peu plus, il me semble, que ce qu'il pouvait y avoir avant. Oui. C'était des poules pondeuses. Voilà.
Oui. Et donc aujourd'hui, avec le manifeste, qu'est-ce que vous faites comme action ou qu'est-ce que vous envisagez de faire ?
Alors, pour le moment, on n'est pas forcément axé sur la maternité. On est à l'autre bout, on est sur la gériatrie.
Oui.
Parce que sur Sainte-Afrique, je ne sais pas si vous avez vu les derniers événements, ils ont fermé, en gros, 50, pratiquement, ils ont fermé tous les lits de SSR, de moyen séjour. Voilà. Alors, ils ont changé le nom, maintenant, ça ne s'appelle plus SSR, je crois que ça s'appelle SMR. Mais c'était moyen séjour. Les gens, ils comprennent, ils savent ce que c'est. Voilà. C'est là où on va après une hospitalisation pour faire de la kiné, pour se retaper un peu. Voilà. Et donc, ils ont fermé tous ces lits, c'est-à-dire 30 lits. Bon, ils en avaient déjà fermé avant l'été. Donc là, ils ont fermé le reste. Ils ont fermé des lits de médecine. Ils ont fermé des lits de court séjour. Voilà. Donc, il reste une vingtaine de lits. Pour répondre aux besoins, en plus, on arrive dans l'hiver, avec des bronchites, avec des rhumes, avec des gens qui décompensent au point de vue respiratoire. Hein. Ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué. Il va y avoir des pertes de chance, c'est évident, ouais.
Et donc, Et comment vous allez faire ? Est-ce que vous allez envisager, je sais pas, des dialogues avec les pouvoirs publics ? Comment ?
Alors, on va essayer de faire de l'information à la population, parce qu'il faut quand même que la population se mobilise. Ça fait 20 ans, non, 30 ans pratiquement, que la population est plus ou moins sur le pont pour défendre l'hôpital public. Plus Sainte-Afrique que Millau, parce que Millau est quand même un peu plus gros. Et c'est obligatoirement le plus petit qu'on ferme d'abord. Et donc la population, elle n'est pas très bien informée. Après, là, le souci qu'on avait, c'était que les personnels hospitaliers, quand on initiait des actions, ne nous suivaient pas. Et c'est quand même un moteur de mobilisation, le personnel. Si les gens voient que les personnels sont à la manœuvre, ils se disent « Oh, c'est que là, il y a péril à la demeure, quoi, oui ». Donc on va essayer de faire de l'information de la population et après on joue aussi sur le côté ARS parce que c'est quand même eux, voilà. Bon, il y a les élus locaux, il y a les directeurs, tout ça qui applique le directeur, on lui demande d'eux et il fait quoi, ouais, voilà, il est payé pour ça. Et donc, on va essayer de discuter, quoi, de négocier avec l'ARS, oui, voilà, par rapport à ces fermetures de lits, voilà. Il y a un petit espoir avec des médecins étrangers, mais qui pour le moment ne sont pas disponibles. Et il y a une chose que je ne sais pas, c'est s'ils sont en cours de formation ou s'ils vont se former pour valider leur diplôme étranger. Voilà, oui.
Donc pour qu'ils restent à travailler à Sainte-Afrique.
Ouais. Bon, mais ça va se faire dans 2-3 mois, pas tout de suite, quoi. Donc ça va faire long, oui, oui. Et après, c'est du devoir de l'ARS de chercher des toubis et de nous en proposer, ouais. Bon, après, ils peuvent nous proposer qu'on ne veut nulle part. Ça s'est vu, des fois.
Et donc, si ce projet d'hôpital commun est réalisé, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait quand même des services comme la maternité ou la gériatrie qui restent aussi à Sainte-Afrique ?
Pour faire passer la pilule... Ils avaient dit qu'ils allaient faire un super service de gériatrie sur Sainte-Afrique, mais vu les choses comme elles sont, c'est plutôt mal engagé. Et la maternité, non, ça va partir sur l'hôpital commun, et de partout, à Millau pareil. Tous les services médecine, chirurgie, obstétrique, MECO, voilà. Tout ça, et ça va partir sur l'hôpital commun, oui. Donc ça éloigne le soin, ça complique les choses, quoi. Il y a beaucoup de personnes âgées. Moi, la première, quoi, je vieillis 24 heures tous les jours, il va venir un moment où ce sera pas très prudent que je conduise sur la route, et donc je vais faire comment, voilà.
Eh bien, merci Rose.
Merci.
Est-ce que on peut ajouter quelque chose par rapport au manifeste ? Est-ce que vous avez un site ou un moyen de contact si jamais il y a des auditeurs et auditrices qui veulent vous contacter ?
Non, il y a une adresse que je ne sais pas de tête, c'est lemanifeste@orange.fr. Voilà, c'est l'adresse mail du manifeste.
Ok, super.
Le manifeste en un seul mot, oui.
Ouais. Et ouais. Marion, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ?
Non, mais Rose, il me semble que la maternité de Sainte-Afrique, ça fait depuis longtemps qu'elle était en danger, non ?
Oui, mais après, les sages-femmes avaient fait un gros travail par rapport à l'accompagnement de l'allaitement. Tu vois, elles ont eu le label maternité amie des bébés pour la 5e fois. Et je crois que c'est tous les 4 ans que ça s'octroie, ce truc. Donc ça fait, voilà. Mmh. Et il y avait, voilà, l'allaitement et la parentalité, ce que je disais tout à l'heure. Voilà, oui, mmh. Oui. Ouais.
Oui, mais c'est vrai que ça fait longtemps, pardon, ça fait longtemps que la population est mobilisée autour de ça.
Oui, il y avait eu de grosses, oui. La maternité, ils ont commencé à vouloir la fermer en 95, il me semble. C'est Pathier qui était le directeur de l'ARH à l'époque, ça s'appelait, et qui était venu et qui avait dit au gynéco, qui était monsieur Laroche, il avait dit « Ah ben, oh, mais on la ferme !» Voilà, oui. Et oui, parce qu'ils mettent, ils mettent des quotas. Il faut faire, je ne sais plus combien, 300 accouchements dans l'année pour être performant. Monsieur Laroche, il disait, mais moi, je fais plus d'accouchements que mes collègues toulousains, puisque ce sont les étudiants qui font les accouchements ou les sages-femmes. C'est pas les gynécos chefs de service. Voilà.
Oui, et puis encore une fois, ça rentre dans une logique de marchandisation un peu de l'hôpital.
Ben oui.
Ouais. Eh bien, ouais, ben en tout cas, on suivra aussi l'actualité du manifeste et de ces hôpitaux voilà, menacés de fermeture.
Ah oui, et oui.
Merci encore une fois.
Et puis c'est pas qu'à Sainte-Afrique et Millau, quoi. C'est partout en France, c'est ça qu'il y a de c'est ce qui est catastrophique, quoi.
Ouais, parce que la même situation, il y en a sûrement ailleurs.
Mm. Ouais, ah oui. Farlav, ça paraît de loin, quoi. Voilà, oui. Mm.
Et oui, bien, merci. Merci, Rose Combe.
Merci à vous deux.
Merci.
Donc, bonne journée.
Ouais, à toi aussi.
Au revoir.
Pour le rappeler, donc Rose Combe est membre du manifeste, le comité local à Sainte-Afrique et Millau, rattaché à la coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité. Déjà la fin de l'actuel sur Radio Larzac pour ce mois-ci. On se retrouve le mois prochain, donc l'année prochaine aussi, avec très certainement un deuxième volet sur ce thème de l'accès aux soins, sur le soin de manière générale. Merci encore une fois à nos invités Marion. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Et puis merci à Rose qu'on vient de quitter au téléphone. Merci à Carole pour sa chronique et merci beaucoup à Maggie pour l'aide dans la préparation de cette émission. Merci à toi Nico, à la technique, comme toujours.
De rien.
Et puis j'ai aussi une information à vous faire passer concernant le planning familial. C'était pour vous dire que la permanence est fermée du 25 novembre au 3 janvier. Mais pendant ce temps, vous pouvez toujours appeler le numéro du planning et le numéro vert.
Du 25 décembre, tu as dit novembre.
Ah oui, pardon, 25 décembre. Effectivement, du 25 décembre au 3 janvier. Donc elle reste ouverte en tout cas jusqu'au 25 et puis après pour l'année prochaine. Eh bien, en ce qui concerne cette émission, elle est rediffusée demain, vendredi à 19h. Et elle sera aussi très bientôt mise en ligne sur notre site radiolarzac.org. Et d'ailleurs, toutes les autres émissions, je le rappelle, sont en ligne. Si vous voulez les écouter ou les réécouter pendant les fêtes, voilà, vous pouvez vous régaler. Passez une belle fin d'année féministe, surtout. Et pour commencer la nouvelle année avec plein d'énergie pour faire la révolution. Donc écoutez-nous, bonne continuation sur Radio Larzac.